Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bienvenue tout le monde, bienvenue dans Sherby le midi. Il est présentement midi 4, 24 octobre, et on est avec vous pour la prochaine heure de l'heure du midi. Pendant la semaine de relâche, on vous a pas abandonné, contrairement à il y a deux semaines. On est présent au poste, Marjolaine.
Laurent, faut pas le rappeler aux gens.
Non, mais on rappelle des histoires d'anciens pour que nous, on nous montre dans le futur qu'on est là pour les bonnes raisons. Donc aujourd'hui, Marjolaine, bon, vous venez d'entendre la douce voix de Marjolaine, la douce voix du Rossignol ballonné qui est la mienne. Mais on a un invité aujourd'hui. Pour la première fois, on le reçoit.
Oui.
Marjolaine, je te laisse le présenter.
Austin Didier, bonjour. Comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Marjolaine, ça va très bien, toi?
Ça va très bien. Juste... On peut l'appeler juste Austin, je pense que ça te shake-tu.
Ça va être mieux.
Ça va être mieux. Austin ou Didier, qu'est-ce que tu préfères?
Ça va être Austin aujourd'hui.
Austin, OK. La prochaine fois, tu viens, c'est après Didier.
Oui, on alterne à chaque
Monsieur
fois.
Monsieur Didier, là. Bref, racontez-moi comment vous connaissez toutes les deux.
Là là, ça c'est une rencontre...
Version courte, version longue. Non, c'est vrai.
Version drôle.
Version drôle.
Donc, dans le fond, Didier et moi, on est dans le club de triathlon ensemble. Et la première fois que je me suis pointée, j'y ai fait un petit atelier sur comment plonger dans l'eau. C'était la première fois qu'il me voyait sur le bord de la piscine. Puis, I guess que j'ai de l'air jeune parce qu'il croyait que j'étais une jeune du secondaire.
Parce que moi, je me demandais pourquoi elle s'entraînait jamais avec nous.
Je comprends. Parce c'est que ça. Tu l'avais jamais vue.
Parce qu'il a fait genre, elle est bonne, je l'ai jamais vue. Clairement, ça fait longtemps qu'elle est dans le club de tri. Ça doit être une jeune secondaire.
Elle s'entraîne avec les jeunes, avec l'autre groupe d'âge.
C'est ça.
Donc, première fois que tu la vois, tu crois que c'était une bambine.
Ouais,
tu prenais juste de la place dans la grande piscine.
Il pensait que j'avais genre 16 ans. On en parle même. OK.
Maximum 18. Mais ça, c'est.
Ben, vraiment, t'es plus dans les jeunes à 18, là? Ben, tu es encore dans les jeunes?
Dans ma tête, c'est qu'il y a 17 ans. Fait,
peut-être.
18 ans.
Ouais.
Mais est-ce que c'est sous ce vaudeville que c'est consolidé votre amitié ou c'est plus tard?
Ben, je pense que. Non, c'était plus tard.
Non, c'est vraiment plus tard parce ouais. qu'il y a eu une séparation où est-ce qu'on s'est vu par la suite dans d'autres contextes. Puis j'avais compris qu'il était adulte. Puis là, ensuite, je me suis dit, c'est vrai, je pensais qu'il était jeune.
Ouais. Puis là, j'ai vraiment pris ça comme quand même récemment qu'il croyait que j'étais une jeune. Puis j'ai un peu insulté.
C'est pas la première chose que tu dis à quelqu'un autour d'une bière, mettons.
Donc là, aujourd'hui, ça fait en date d'aujourd'hui, ça fait combien de temps que votre amitié dure?
Trop longtemps.
Oh, OK, déjà.
Ouais.
Mais ça, c'est le genre de relation que nous avons. Là. C'est pas sérieux, mettons. Là.
Un genre d'amour-haine, mais
beaucoup
bien
d'haine.
Ancré dans la bienveillance.
Ouais, beaucoup d'haine.
La bienveillance?
Ah, OK, parfait.
La haine supervisée.
Ben, bienvenue, Austin, pour ma part, du moins. Donc, Marjolaine,
mais
merci
oui.
d'être là une fois de plus cette semaine. Je l'ai dit, c'est la relâche, mais nous, on ne fait pas relâche. On est là pour la prochaine heure pour vous divertir, pour vous amuser, mais aussi pour vous apprendre des affaires, parce qu'on est une émission de service, nous autres,
oui,
ici, madame.
Oui, oui, oui.
OK? Là, on a du pain sur la planche. On va commencer tout avec le tour de table. On n'a toujours pas de jingle, mais on va faire un jingle improvisé.
Pourquoi? OK, un jingle improvisé.
1, 2, 3.
Je te suis.
Tour de table.
Ling, ling.
Tu vois comment t'es synchro?
Ouais, ça, c'est parfait.
Moi, si on peut juste prendre ce segment-là, on le coupe, on le transforme en son, j'appellerai présent.
C'est 100% possible. On demandera à Alex de le faire.
Ben, complètement. Austin,
oui.
Tour de table présentement. Donc, bienvenue, c'est la première fois, comme j'ai dit. Écoutez, mes notes me disent PB aux 5 km de course à pied hier soir autour du lac. Félicitations!
Oui.
Merci beaucoup.
Marjolaine, c'est quoi PB?
Personal best.
Oh, personal best pour les 5 km autour du lac.
Ouais.
Combien de temps t'as fait?
J'ai fait 20 minutes 50, en bas du 21 minutes qui était mon objectif. C'est ça, avant mon PB, c'était 21-40. Donc, j'ai coupé 50 secondes sur mon ancien PB.
Oh!
C'est quand même pas pire. Ça fait pas si longtemps que ça que tu l'avais fait, me semble?
J'ai fait comme 5 mois.
C'est ça. Fait relativement une belle amélioration.
Ouais, je suis très content.
Mais ça, si on coupe ça en km/h, c'est combien à peu près de vitesse pour un kilomètre?
Ben, c'est 4 minutes 10 pour un kilomètre.
4 minutes pour un kilomètre.
Ben, c'est environ 16. Si je me fie à la vitesse que moi j'avais hier, c'était environ 16 km/h.
16 km/h.
Oui, parce que moi, je suivais Austin en trottinette. Fait que j'étais genre son petit lapin. Enfin, dans les courses sportives, admettons des marathons ou des affaires de même, des fois, il y a des gens que ça s'appelle les lapins. Fait qu'eux, ils vont faire la distance dans un temps précis. Fait que si tu les suis, t'es garanti de faire ce temps-là.
Ah ouais, hein?
Fait que t'as pas besoin de genre toi essayer de gager ton pace ou quoi que ce soit. Dans le cas d'une course où est-ce que tu veux aller vite, c'est super pratique parce que t'as pas besoin de toujours checker ta montre pour voir si t'es au bon pace. Fait que moi, ma job, c'était de m'assurer que je roule toujours à 16 km/h environ pour qu'ils puissent me suivre. Puis là, on s'était parlé avant, c'est genre, OK, on roule à combien? Il me dit 14-15, j'ai fait parfait. On part à du 18, je suis comme juste te dire, tu vas vite.
Un peu trop vite.
Après ça, mais à ta défense, on descendait une côte pour commencer. Fait que là, il court autour du lac. Puis là, c'est genre, si je vois le 13 km/h, il faut que je dise, genre, là, t'es trop slow. Mais on l'a jamais. Genre, même le 14, là, je l'ai très rarement vu, le fait que c'était super.
Ah, puis juste bon. Pour mettre une image mentale, de quel lac qu'on parle?
Le lac des Nations.
Ah oui, c'est pas le lac Orford, là. OK, pardon.
Non.
Puis est-ce que ce 5 km, c'est un peu comme une course bonbon ou c'était difficile quand même?
Tu cours des plus longues distances, normalement.
Ouais, je cours des plus longues distances d'habitude, mais reste que, mettons, courir un 5 km à cette intensité-là, c'est pas du bonbon. Là. Comme okay. C'est assez douloureux. Là.
C'est quoi la distance la plus longue que tu aies couru dans ton parcours?
J'ai couru un marathon dans le cadre d'un Ironman au Mont-Tremblant.
Ah, mais ça, c'est facile, ça! C'est facile.
Juste pour être sûr, là, puis rappeler aux gens qui nous écoutent, les audio-spectateurs, audio-spectatrices, oui. C'est combien de kilomètres déjà de course?
42,2 kilomètres.
Ah ouais, puis la natation, puis le vélo avec ça. Ouais. Hey, déjà, 42 kilomètres, c'était une étape. Là. Ouais. Toi, quand t'as fini ton Ironman, puis t'es pas mort, visiblement, c'était quoi, juste pour être sûr, l'ordre, c'est la course, la natation, c'est quoi?
Nage, vélo, course. Parce qu'on se rappelle, tu veux pas finir par la nage, parce que tu vas te noyer.
Tu veux pas finir par la course non plus, tu veux pas commencer par rien finalement non plus.
Parce que ouais, finir par la natation, c'est la clé dangereux. Là. T'es tellement épuisé qu'il y a des risques pour ta sécurité.
La nage,
de vie,
c'est l'échauffement en gros. Là.
Puis c'est quoi ton mindset quand tu viens de faire là, une chier de kilomètres de natation, une chier de mètres de vélo, puis là tu dis, il me reste 42 km à courir. Là. Quand t'arrives à cette étape-là, cette espèce de carrefour giratoire-là où là, tu changes d'épreuve, là. Dans ta tête, c'est quoi tu dis? Tu dis-tu, ou tu dis, OK, c'est parfait. C'est quoi, mettons, le raisonnement d'un athlète?
C'est spécial quand même, parce que j'avais fait le vélo, puis juste de faire ces 180 km de vélo.
Ah, juste ça.
C'est juste ça, j'étais comme, je suis vraiment content, j'ai complété l'étape de vélo. Puis là, t'oublies que t'as un marathon à faire. Oui. T'as des gens qui t'encouragent, fait que tu sais, tu veux pas avoir de l'air triste devant eux, tu veux sourire, prendre des bonnes photos. Fait que.
Tout
donc,
ça pour le
Instabase pendant le marathon.
Exact. Oh ouais, hein. J'ai tout le temps, moi, des amis qui prennent des stories sur mon téléphone pendant que je fais mes courses.
Oui, ça, c'est vraiment le fun, ça. Si tu t'abonnes à Instinct, tu le verras. Il laisse son téléphone à Max, on la salue. Elle fait des takeovers durant la journée.
J'ai le vertige, j'en ai parlé. Merci beaucoup, Instinct, d'être là avec nous. Faire un marathon. C'est déjà un exploit. Le faire un Ironman, je te félicite. Félicitations. Moi, le seul Ironman que j'aurai la chance de voir, c'est Robert Downey Jr. sur ma grosse crise de télé.
Laurent?
Marjolaine.
Non,
c'est toi, Marjolaine.
Non, c'est toi, Laurent.
C'est moi.
Match d'impro ce soir, spécial, oui. Semaine de relâche. Parle-moi-en un petit peu.
Oui, merci de faire une passe sur la palette. Donc, ce soir, au Refuge des Brasseurs, en guise de match spécial, tu l'as dit, pour la relâche. Donc, c'est un format Whose Line It Is, adapté du format américain et british, si je ne me trompe pas. Donc, l'arbitre, finalement, nous donne des séries de défis, d'enjeux. Donc, il n'y a pas de point qui est accordé, mais par exemple, l'arbitre pourrait tout bonnement nous dire, parfait, donc l'impro commence, 4 personnes sur la patinoire, donc telle situation est imposée. Il y a des jeux aussi, donc par exemple, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, par exemple, dans une telle situation. Donc, c'est vraiment là, une affaire ludique qui est vraiment très, très agréable. Puis, je pense que ça a fait bien décrocher la saison régulière et de la relâche. Donc, ça, c'est mon match spécial. Donc, au Refuge des Brasseurs à
20h. C'est qui l'arbitre ce soir?
Toujours le même, Mathieu Mir, l'excellent arbitre qui joue sous l'abordage
oui.
de dimanche.
Et qui participera à cette improvisation spéciale ce soir? Parce que si je ne me trompe pas, vu que c'est un match special pour la semaine de relâche, ce n'est pas une équipe en particulier, mais bien peut-être un ramassé. Ben, j'ai le goût de dire ramassé, mais c'est pas tant ça. Un mélange des membres des trois équipes. Qui seront réunis pour former. Vous n'êtes pas en équipe, dans le fond, tout le monde est
non,
pour soi?
Tout le monde est pour soi. Donc, en effet, je vous l'ai dit, nous avons premièrement moi.
Ah.
Donc, je vous fais le message. écoutez, on a aussi Élie Plour, donc qui est venu où Austin est assis. Élie était là il y a 2 semaines, donc Élie Plour sera là. Écoutez, Antoine Junot sera là, donc ça va être un excellent match. Agathe Abdallah. Aglaé Roy, Florence Perrault et finalement Yasmine Benazouz. Donc, c'est un alignement de feu. Donc, je vous conseille de venir. Mais bon, fini pour moi, Marjolaine. J'ai quelque chose à dire sur toi.
Oui.
OK. C'est ça. Secrétariat général du Club de triathlon de Sherbrooke.
Alors là, je t'explique ce qui s'est passé en fin de semaine. On avait l'AGA, donc l'Assemblée générale annuelle du Club de triathlon. À la fin de la présentation de tous les postes, de qu'est-ce qui s'est passé cette année au club, c'était le moment d'élire les gens sur le conseil d'administration. Et moi, j'ai levé ma main. Dans le fond, il y avait le poste, la description du poste de secrétaire général. Et vraiment, à titre informatif, j'ai levé ma main. J'ai fait... Est-ce que les rencontres sont à quelle fréquence? Et la réponse a été, Marjolaine est élue par acclamation. Puis j'ai fait, c'est bien ça, c'est très bien. Non, en fait, ça s'est pas exactement passé de même, mais juste, je me suis intéressée au poste, puis en fait, tu le veux-tu, c'est à toi? Puis j'étais comme, d'accord.
Donc, Marjolaine est finalement la coordonnatrice générale de la FEUS, oui. Donc de tout le premier cycle. Elle est aussi secrétariat général du triathlon de Sherbrooke, en fait, du club. Marjolaine, nomme-moi une implication que tu ne fais pas cette année.
une implication que je fais pas cette année, genre que j'ai faite dans le passé, mettons.
Non, mais t'en fais beaucoup, là. C'est okay. Beaucoup de tâches, là. Comment tu te sens
c'est
à préparer
ouais, j'ai,
à ça?
Mais j'ai texté Co, j'ai fait « Yo, on est sur le CA ensemble », puis elle a fait « T'as-tu vraiment le temps? » J'ai fait « Tu me poses la même question. »
De toute façon, c'est pas permanent, ces postes-là. Là. Si jamais c'est trop, là, tu pourras faire comme tu fais toujours et rester dans le poste.
Ben ouais.
Merci beaucoup donc d'être là tout le monde ensemble, c'est très très agréable. Oui. Austin, dans une vingtaine, tu nous parles de ton podcast, donc pas pour faire de spoiler, mais ton podcast s'appelle
Les 6 idées d'Austin Didier.
Moi quel
rien de moi là.
C'est tellement bon là. Marjolaine, toi tu nous fais un quiz zinzin en fin d'émission sur les records Guinness les plus wacko.
Ben oui, pour faire un peu du pouce, on a parlé du record que Austin y a fait à sa course hier. Donc je me suis inspirée de ça pour faire les records Guinness ma foi assez étrange.
Et tu as fait des gueux là.
Il y en a que oui, je les ai pas mis parce que j'étais comme vraiment ça m'écœure moi-même. Tu sais, genre le plus gros poids qui a pu être levé, ben bouger avec ses paupières, alors moi ça personnellement ça m'écœure.
Donc restez avec nous pour savoir s'il y a d'autres trucs wacko finalement dans le
exactement.
Quiz de la semaine.
Et au retour de la pause, Laurent, tu nous parles ben en fait capsule éphémérine, ça fait longtemps que t'en as pas une, mais elle revient et ma foi elle est assez chargée. Donc on s'en va en pause tout de suite parce qu'au retour Pompéi en capsule éphéméride.
Oui, je vous parle de l'éruption du Vésuve.
Et juste avant tout ça, on s'en va écouter Ariane Roy et Valence avec leur nouvelle chanson Charlie. Restez avec nous, vous écoutez Sherby le Midi sur les ondes du 88.3.
C'était sans importance. Le jour où tu es parti, ce jour où tu es parti, j'ai cru à l'alibi, j'ai crié.
Ariane Roy et Valence, Charlie, vous écoutez toujours Sherby le Midi. Il est présentement midi 19, toujours accompagné de Marjolaine Pion, moi-même et de notre invité Austin Didier. Tel que promis, écoutez, je vous parle de éphéméride, mais on a un jingle pour ça, alors écoutons-le. Capsule éphéméride. Mon mon deuxième jingle préféré, mon premier étant Céline, donc conseil de pro.
Hey, mais ça tombe bien parce qu'on va l'écouter tantôt.
Ah, parfait. Donc, restez de notre pour écouter le jingle préféré à moi. Écoutez, je parle d'éphémérides parce qu'aujourd'hui, le 24 octobre, qu'est-ce que c'est à part le 287e jour du calendrier grégorien? Écoutez, c'est le 1944e anniversaire de l'éruption du Vésuve, ce volcan qui a enseveli dans l'oubli pendant une très grande période de temps la ville de Pompéi d'Herculanum. Donc ça, est-ce que je vous apprends des choses aujourd'hui?
Non.
Ça? Non,
mais
parfait.
Savoir que c'est aujourd'hui qu'il a explosé, mais il y a 1944 ans, oui, ça, c'est une nouvelle pour moi.
Et juste pour mettre un peu en contexte, là, 1944 ans, c'est comme si je vous disais que de l'an zéro jusqu'à à peu près la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce temps-là là, mm-hmm. qu'on célèbre. C'est beaucoup de temps, OK? Mais peu de temps relativement à l'histoire de l'humanité, mais ça, ce sera un débat pour un autre jour. Écoutez, ce que j'ai envie de vous parler dans ma capsule, c'est notamment de la ville, premièrement, de la chronologie de la catastrophe, mais après ça, du mystère de cette datation-là, parce qu'aujourd'hui, je vous dis le 24, mais ça n'a pas toujours été le 24 octobre, OK?
OK.
Restez des nôtres, c'est intéressant. Écoutez, la ville, en général, donc pour faire un peu un topo de Pompéi, ce qu'il faut savoir, c'est que le sud de l'Italie dans lequel Pompéi figure, c'est que en général, à peu près jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est une région de brassage culturel, OK? Très, très importante, qui a été d'abord colonisée par les Grecs bien avant les Romains. Donc, il y avait ce qu'on appelait la Grande Grèce. Donc ça, c'est des cités-états grecs qui allaient à l'extérieur de la Grèce continentale, donc où on trouve Athènes aujourd'hui, donc la Cile, l'Italie, même l'Asie mineure. Donc, quand les gens partaient des colonies principales, disons-le comme ça, pour aller s'établir ailleurs, c'est ce qu'on appelait la Grande Grèce, et Pompéi fait partie notamment de ces régions-là dans lesquelles les Grecs l'ont colonisé. Bon, évidemment, je vous parle de brassage culturel. Il y avait notamment aussi les Étrusques, donc cette population pré-romaine. Il y avait aussi des groupes italiques autochtones. Donc, c'est un grand potluck, finalement, de civilisation qui est ce berceau de Pompéi-là. Donc, niveau culturel, là, c'est un peu comme... C'est un peu comme dans le temps de Montréal. Là. Tu comprends?
Okay,
il y a
oui,
comme
oui,
plein de
oui.
réseaux, plein de cultures. C'est un peu comme le festival du lac des traditions du monde. Pas de lac.
Oui, non, pas de lac, de
Sherbrooke,
oui.
OK? C'est le un melting pot de culture, OK? Bien intéressant. À l'époque romaine, la région de Naples est une véritable terre de villégiature. Donc, vous m'excuserez le terme plutôt moderne, villégiature, là, mais c'est pour les riches romains, OK? Les grands sénateurs, bon, je l'ai dit en romain, les grands sénateurs allaient dans la région de Pompéi, donc dans la baie de Naples, pour profiter, finalement, de la vie, s'y reposer, se relaxer. Notamment, le deuxième empereur, Tibère, aura construit une villa, donc à Capri, donc une île juste en face de la baie de Naples. Donc, on appelle ça la villa de... je l'écris juste ici, je m'en souviens plus, malaise, de Jovis, avec Clovis Santin, mais c'est Jovis, donc très belle ville qu'on peut toujours visiter aujourd'hui. Donc, vous voyez, là, c'est les riches qui vont là, là OK? À Pompéi, on avait, et ça, c'est un fun fact que j'espère vous faire découvrir, des thermopoliums, donc au pluriel, thermopolia, c'est les fast-foods de l'Antiquité. Oh. À Pompéi seulement, on en décompte plus de 80. Donc, c'est une espèce de petit, écoutez, un petit bâtiment. Puis les fouilles archéologiques révèlent au grand jour des traces d'une boulangerie, d'os de canard, des restes de porc, de chèvres, des poissons, des fèves pilées, des escargots, de gigantesques vases qui peuvent contenir jusqu'à 1200 litres. Okay? Donc, les gens allaient là consommer, ils buvaient. Puis c'est un peu comme les fast-foods, là, donc tu t'en vas après. Là, donc, c'est quand même intéressant. Tu
avais ta bouffe rapidement, puis ensuite tu peux
complètement.
Quitter.
Donc, okay. C'est le McDonald's.
Beau bon pas cher, on appelle?
Complètement. Écoutez, Pompéi a tout l'aspect d'une cité grecque et italique. C'est un urbanisme qui est très, très bien défini. Donc, une des villes là, fort bien ancrée dans cet urbanisme-là. Puis, au côté de l'archéologie, c'est une ville qui est très rare parce qu'elle est figée dans le temps de par l'éruption du Vésuve. On l'a oublié, finalement. Quand l'éruption est allée, les gens ont quitté et ne sont pas retournés après parce qu'il n'y avait plus rien.
Ben, il y en a qui ont quitté, mais pas tout le monde. Là.
Non, il y en a qui n'ont pas pu quitter. Donc, c'est je vais en parler plus tard. Mais pour les gens, on n'est pas retourné là après parce qu'il n'y avait plus rien. Donc,
c'est ça, parce que ça a été enseveli quasiment au complet.
Il y
là,
avait
quand
3
ont...
mètres c'est de débris ça. Volcaniques par-dessus. Donc, jusqu'à la... En fait, depuis les années 1850 qu'on retrouve Pompéi. Donc, de 79 à 1850, là, il y a une grande étape qu'il n'y a rien. Là. Donc, c'est des vestiges super rares, comme par exemple Rome, a toujours été habité. Là. Donc aujourd'hui, il y a 2800 ans de construction l'une sur l'autre. Là. C'est assez difficile de faire des fouilles. Là. Puis quand on fait des fouilles, tout le site devient une fouille. Donc on ne peut pas faire ça à Rome. Là. Quand quelqu'un habite là, on ne peut pas fouiller sa maison. Là. Donc c'est très, très rare. Donc de ce point-là, au niveau de l'histoire, c'est une perle. OK? Voilà, ça je l'ai dit. Maintenant, la chronologie. Donc, j'ai parlé un peu de la vie de mon pays, là, en gros et en large, là. Donc, la chronologie, écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que la péninsule italienne, c'est une ancienne terre volcanique. Donc, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de séismes. Et là, un peu avant l'éruption en 79, dans les années 60, donc pas 1900, mais évidemment de 0 à, en fait, de 60
vraiment
à 69.
Vraiment 60, 60.
Oui, oui, the real 60. Il y a beaucoup de secousses sismiques successives qui annonce finalement ce qui va se passer en la date de l'éruption. Et il y aura même un tremblement de terre en 62. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de bâtiments qui commencent déjà à être un petit peu...
Maganés. Donc, ça, un petit crack.
Écoutez, retenez cette information, c'est important.
62, grosse...
En fait,
gros chécage de terre.
Bâtiments en construction. Retenez ça, c'est okay. Important. OK? Vers 8 heures du matin, le 24 octobre, il y a une secousse. Il n'y a pas de truc sonore, alors je vous ferai là, les bruitages. Quelques heures plus tard, il y a un énorme nuage noir qui va vers le ciel. Et finalement, c'est le matin suivant, donc le 25, qu'il y a une explosion du volcan. Il y a une colonne de cendre de 32 km de haut qui vont jusqu'à la stratosphère. Si vous pensez que vous avez vu un feu d'artifice géant, écoutez ça, là, c'est 32 km dans les airs, là. C'est haut, hein? Un avion va à peu près à, je me trompe pas, là, 4 km dans les airs, là. 32 km, là.
Il aurait pu se faire ça un peu le 10 de plus d'un marathon, là. Je veux dire, Colin.
Ben, mais moi, c'est ça que j'ai pensé. Moi, c'est là. Ça que j'ai pensé. Moi, je trouve que le volcan, là, une grosse personne lazy. On va le dire, de lazy song de Bruno Mars, OK? Écoutez, notamment le 32 km de haut de colonne, là, la stratosphère, il y a ce qu'on appelle une coulée pyroclastique, ou plutôt la nuée, en fait, la nuée ardente. Quand le volcan explose, là, ben, ça va, là, sur les parois du volcan à une vitesse phénoménale d'à peu près 115 à 120 km/h.
Dans la lave?
Ouais, ouais, là.
Ah oui.
Puis les débris volcaniques, donc, puis c'est une espèce de gaz puis d'air chaud.
Mais aussi toutes les particules de roche chaude.
De roche, de magma, tout ça, là. Donc, c'est une pyro, donc feu, puis classique, bon, je sais pas quoi, mais de feu, OK? On s'entend. Ça va très vite et c'est très, très, très chaud. Donc, ça peut aller, là, jusqu'à 1000 degrés. Bon, dans ce cas-là, on considère que c'est à peu près 120 degrés Celsius, là, selon les géologues. Ou les volcanologues, je ne sais pas trop. Pyroclaste, donc je l'avais juste ici, donc pyre qui signifie feu et clastos qui signifie briser en morceaux. Donc c'est beaucoup de, finalement, de ce qu'on appelle du magma. L'éruption, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en moyenne 3 mètres de débris volcaniques qui vont aller s'empiler sur la ville. Donc c'est un défi archéologique de défaire, de fouiller tout ça en dessous, mais à vous le dire, c'est beaucoup. Les habitants qui n'ont pas fui, parce qu'évidemment le matin il y avait eu comme des petites secousses, il y a des gens qui ont quitté, mais les gens par exemple qui sont fait attaquer par un grand morceau de pierre, qui ont tombé sur leur maison puis qui ont été pris, sont restés là.
Ou avec de la lave qui te court après, mais à genre 115 km/h, c'est un peu difficile.
C'est
là.
Ça, là.
Mais on s'entend, il n'y avait pas de voiture, donc on ne peut pas se sauver très rapidement.
Voilà. Et vous connaissez la phrase de barbecue, barbecue, Saint-Hubert, barbecue. Ben, c'était ça, mais pour les gens. Donc, les gens ont fui, donc c'était pas saignant, là, OK? Là, c'était bien cuit, là, OK? Écoutez, la position un peu recroquevillée qu'on voit dans les moulages, là, ça serait dû un peu, tu sais, quand on met de l'eau chaude sur du poisson puis ça recroqueville un peu, là, c'est que les muscles...
Les gens pensent que c'est ça.
Ben, selon les experts, c'est pas tout le monde qui est en mode sieste pendant qu'il y a un volcan, là, donc quand...
Non, mais je pensais que c'est parce que c'est genre, tu sais, c'est une position... T'sais, on essaye de se protéger.
Aussi, donc t'sais, les gens essayent aussi.
Je me recroqueville sur moi-même parce que, si je me trompe pas, il y a pas comme des je sais pas trop comment on peut appeler ça, on va appeler le moule de comme ce qui semble être une mère qui essaye de recouvrir son enfant parce qu'en dessous, il y a comme quelque chose d'autre.
Il y a eu ça aussi, mais de la manière comment les trucs sont tournés, il y a des experts qui se positionnent en disant qu'à cause de cette chaleur-là si énorme, il y aurait eu
crispé,
un effet
là.
Du muscle qui se serait crispé. J'ai pas trouvé le mot français, j'ai juste shrink comme... voilà. Donc, on va... En fait, il y a une personne, un témoin oculaire qu'on appelle Pline le Jeune. Donc, lui va écrire sur cette affaire-là. Donc, c'est son témoignage qu'on va encore aujourd'hui prendre pour acquis. Notamment, petit fait intéressant, donc des éruptions volcaniques explosives, on va les appeler des pliliennes en honneur à Pline le Jeune. Je vous dépasse, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vous parle de la datation. Donc, ce mystère-là, qu'est-ce que c'est finalement? Tantôt, je vous ai dit la date du 24 octobre, mais ça n'a pas toujours été ça. Finalement, depuis 4 ans qu'on établit que c'est le 24 octobre, parce qu'avant, on pensait que c'était le 24 août, OK?
Ouais.
C'est anodin, mais en fait, c'est que Pline le Jeune, donc je l'ai nommé le témoin oculaire, a écrit à la main ses visions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de 79 à aujourd'hui, il y en a eu de la retranscription. Et au Moyen-Âge, les écrits de l'Antiquité étaient écrits par des moines, et finalement, on a repris ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des erreurs de translation, là, OK? Comme Taylor Swift a dit Lost in Translation.
Oui.
Ce qu'on a aujourd'hui qui est écrit, c'est Nonum Cal Septembre, c'est-à-dire 9 jours avant les calendes de septembre, calende étant le premier jour du mois. Donc, on se dit 9 jours avant le septembre, donc 24 août.
Mm-hmm.
Mais on a réalisé que quelque chose n'était pas vrai grâce à environ 4 raisons. Premièrement, juste avant de dire les 4 raisons, on s'est jamais obstiné sur la date, donc 79, parce que Titus, qui était l'empereur à ce moment-là, il y a des preuves qu'il a aidé les gens. Et en 80, il y a eu un incendie à Rome, et c'était Titus qui était au pouvoir donc pour aider. Donc l'année, c'est pas ça qui fait le débat, c'est plutôt la date précise. Je vous l'ai dit, il y a 4 raisons. Première raison, les moulages qu'on a fait démontrent que les victimes portaient des vêtements automnaux et hivernaux et faits de laine. Et si vous êtes allé à Naples, dans la région du 24 août, il n'y a pas un Christ de chat qui porte ce vêtement-là parce qu'il fait très, très chaud. OK? Il fait chaud que le dog. Deuxième raison, des études de leur CAC, donc de leur révèlent des restes de nourriture comme des noix et des fruits qu'on récolte seulement en automne.
OK.
Donc, on va même jusqu'à là pour faire nos recherches scientifiques. Et Alix Barbet, donc, qui est une archéologue française, met en avant un autre élément agricole important. Les vendanges étaient terminées. Et selon plusieurs textes agronomes antiques, dont Columelle et Pline l'Ancien, ils précisent que les vendanges commençaient à l'équinoxe d'automne, donc le 21 septembre, et se terminaient maximum au coucher des Pléiades le 11 novembre. Donc, pour ces raisons-là, on s'entend que ça peut pas être le 24 août. Mais mettons, on est de mauvaise foi, puis on dit que les moulages, là, les gens essaient des manteaux parce que c'est la saison des rabais, mettons, là, au port expert pompéien. Là, plus comme on va juste essayer pour que ça se coûte moins cher en hiver. Mettons, on se dit là-dessus, puis mettons, on dit que les noix qu'ils mangeaient, c'était des noix de l'année dernière. Mettons, on a de mauvaise foi, puis que... Mettons, on pense tout ça. Vous pensez que c'est quoi qui, en 2018, a vraiment mis la barre définitive sur la date?
Mais c'est pas une histoire que, mettons, notre calendrier est comme décalé de 2 mois. Comme, mettons, le mois de septembre, c'est comme notre 9e mois. Mais OK, c'est pas ça?
Non.
Je sais pas, ils ont trouvé un os ou quelconque, ils ont fait de la datation carbone dedans, puis ils ont fait non, avait tort.
C'était un graffiti.
Ah oui, hein?
Tout à l'heure, je vous ai parlé dans les 60 des trucs sismiques, des bâtiments en construction.
Oui.
Donc, fort probablement qu'il y avait un édifice qui était en construction. Et on a un graffiti au fusain qu'on a découvert sur le mur de l'atrium, qui est la pièce principale d'une maisonnée. Il y a un chantier il y a un ouvrier sur le chantier qui s'est moqué d'un de ses camarades et a écrit au fusain la date. Donc, le 16e jour avant les calendes du mois de novembre, donc autour du 17 octobre, ce qui a permis de situer à peu près autour du 24 août. Donc, la raison pourquoi on sait...
T'as dit 24 août.
24 octobre, excusez. La raison pourquoi on sait seulement que c'est autour du 24 octobre, c'est à cause d'un graffiti.
C'est ça, parce que s'il avait écrit genre le 17 octobre, mais que ça avait explosé le 24 août, il n'aurait jamais été là.
Voilà.
Fort.
Donc, on sait que c'est après le 17 octobre et puisqu'on disait 24 août, j'en comprends qu'on a dit à peu près le 24 octobre. Voilà. Chose que je voulais vous informer aussi sur le truc, donc l'émoulage, en fait, là, c'est pas la tendance qu'on pense, c'est que les gens, par exemple, sont juste décédés puis la cendre a recouvert leur corps. C'est pas vrai. Avec les strates de débris volcaniques, les corps ont dissous, mais aujourd'hui, dans ces petits espaces-là, dans les strates, on moule du plâtre et c'est ça qui forme finalement les corps.
Mmh.
Voilà. Donc, on se souviendra finalement des graffitis. Et dernièrement, donc, on a un segment nouveau, donc, découverte du web. Je parle de Pompi, la chanson Pompi, mais de Bastille. Il y a eu une collaboration avec le compositeur Hans Zimmer qui a construit finalement la chanson de Pierre des Caraïbes et de Inception. Ils ont fait un mélange ensemble. Allez écouter ça, c'est fabuleux. Merci, j'ai dépassé mon temps.
Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup, Laurent.
Avec plaisir.
À quand la prochaine capsule éphémérite? Est-ce qu'on va devoir attendre 3 semaines?
Non, mais j'ai eu une nostalgie de mon bac en soir. J'ai adoré faire ça, mais plus tard.
Austin,
au retour de la musique, tu nous parles de ton podcast Les hosties d'idées d'Austin Didier.
Et on s'en va écouter Qu'est-ce que tu me fais des louanges? Restez avec nous. Vous écoutez Sherby le midi sur les ondes du 88.3.
Le soleil quitte le 514, la place est vide, vieux Montréal. L'équipe technique fait son ménage. 1er janvier, hier, what a night. Oh, what a night. Fuck. Coupe en champagne, les feux, les estrades, full fanfare. Arrête sur image, aperçu au large. Rejoins à la nage, laisse faire la bouée. Ma loge est juste à côté, minuit à peine passé. Et le lendemain encore collé, mon coin s'est embarqué. Mais qu'est-ce que tu me fais? J'ai perdu la tête, ma vie elle est parfaite. Depuis la nuit d'hier, mais qu'est-ce que tu me fais? J'ai joué aux fiers, suffisait d'une flèche pour me mettre en l'air.
personne. Comment ça se fait? Comment tu fais? Et qu'est-ce que tu me fais? Mais qu'est-ce que tu me fais? J'ai perdu la tête, ma vie elle est parfaite depuis la nuit d'hier. Mais qu'est-ce que tu me fais? J'ai joué aux fiers, suffisait d'une flèche pour me mettre en laisse. Mais comment ça se fait? Comment tu fais? Mais qu'est-ce que tu me fais? Ça c'est pas mon genre, pur scorpion, papillon dans le ventre. T'es la constante, logée entre mes tempes. Tremble-moi à chaque fois que j'y pense. Aucune envie d'être sage, hope to you baby. Prier sur le side, soldat c'est décidé. Arracher le tag, jeter au plancher. Impossible de retourner.
Ce 24 octobre, toujours accompagné de Marjolaine Pion, Austin Didier et de moi-même. Donc, Austin, tu nous parles de ton podcast, Les Hosties d'idées d'Austin Didier.
Qu'est-ce qui t'a inspiré à partir ce podcast-là? Ça vient de où, là, le background story? On est curieux de savoir.
En fait, c'est ça, dans le fond, c'est juste que j'avais souvent des discussions avec des amis de des enjeux, on peut dire, sociaux et tout. Puis, on s'était simplement dit à la base, ah ben, pourquoi on fait pas juste comme s'enregistrer et diffuser toutes ces réflexions-là à tout le monde. Mm-hmm. Le but, c'était aussi simple que ça. Puis là, justement, il y avait tout le temps des idées un peu loufoques qui ressortaient, puis sinon, on s'amusait avec ça. De là qu'on a trouvé le jeu de mots, les hosties d'idées d'Austin Didier.
Fait que là, qui est excellent, d'ailleurs, je dois le mentionner.
Je suis vraiment fier. Quand j'ai publié le logo du podcast sur mon Instagram, j'ai eu plein de commentaires, je suis vraiment fier. C'est plus grosse fierté à vie.
un petit jeu de mots.
Un petit jeu de mots. Puis c'est ça, fait que là après ça, le petit slogan qui venait avec, c'était que dans ce podcast, on parlait de 6 idées progressistes en route vers une économie responsable. Fait que dans le fond, on discute un peu de tout qui aide un peu à la société, là, dans le sens, mettons, l'éducation, l'économie, l'environnement, plein d'affaires. Tout type d'invités avec des idées plus progressistes. C'est comme, mettons, okay. Le but, c'est pas nécessairement de comme s'attaquer à des enjeux qui sont un peu plus, je veux dire, subjectifs. Là, comme, ah, est-ce que les profs sont assez valorisés? Est-ce qu'ils doivent avoir plus de salaire? Est-ce qu'il y en a qui sont trop payés? D'autres sont...
Tu veux ce qu'on en parle?
Oh, genre, non, mais je sais pas, je te regardais, mais...
Peut-être c'est... la prochaine invitée sur ton podcast, mais tu vois, genre, ça va faire plaisir. Là.
Est-ce que c'est toujours les mêmes collaborateurs ou tu changes à chaque semaine,
par exemple? Ben, spoiler alert, c'est plus actif comme podcast. Là. c'est peut-être dans les plans à annoncer, peut-être, à voir, de leur partir, mais c'était tout le temps des invités différents. Enfin, moi, je faisais 3 épisodes par invité. Fait que je faisais un enregistrement, ça me durait 3 semaines. Okay. Puis là, j'en enchaînais aux 3 semaines.
C'était des émissions d'à peu près combien de temps que tu sortais?
C'est environ une demi-heure.
OK. Fait qu'on avait environ là, une heure et demie de contenu avec chaque personne invitée.
Ouais, parce que chaque émission avait vraiment comme son sujet.
OK.
Fait qu'on voulait vraiment comme pas trop déborder...
Ben, c'est aussi, ouais, séparer pour garder l'attention des gens.
Exactement.
Puis, admettons là, que tu devais ressortir peut-être un invité slash sujet que tu as vraiment apprécié faire, ça serait lequel?
Ouais. Là, ça a l'air d'être réglé avec le gars des vues, là, mais moi, j'ai Sean Young que j'ai vraiment adoré avoir. En fait, c'est le CEO de Classcraft. C'est un logiciel de comme gamification de l'éducation, là, c'est, tu sais, auprès des écoles secondaires. Puis, dans le fond, lui, j'ai fait un stage pour lui, en fait.
Okay.
J'ai une informatique à l'université, puis il m'a eu comme stagiaire, puis quand j'ai passé mon podcast, je suis comme, hey, ben tu sais, je veux parler d'éducation, fait que j'étais vraiment content de passer sur mon podcast. Mais ce gars-là, c'est un génie, comme lui à la base, c'est un enseignant, il enseignait la physique, puis au travers de ses cours, il s'était rendu compte, il est comme, c'est bien beau d'enseigner aux étudiants, mais s'ils n'ont pas de motivation à l'école, ça sert à quoi? Tu vas dire des choses vraiment brillantes, mais l'étudiant il va dormir sur son bureau.
Ouais.
Fait que là, lui, il a de lui-même créé un logiciel pour comme gamifier un peu tout ça.
Genre de Kahoot, mettons.
Next level, Kahoot. Okay. Imagine genre World of Warcraft, mais tes quests, c'est genre faire des devoirs, genre des affaires comme ça.
Fait que c'est comme Call of Duty, mais l'ennemi, mettons, c'est les devoirs manquants.
C'est ça, exact.
Okay.
Puis tu perds des points de vie quand tu remets ton devoir en retard, mettons.
Oh,
hein. Vous seriez mort. Fait que c'est ça, tu avais commencé de même, puis par la suite, c'est ça, il y a... on dirait que je fais de la promo pour que la soit, je ne sais pas comment tu sais.
Non, là, mais c'est vraiment intéressant, moi, c'est un truc que je ne connaissais pas, mais c'est-tu une affaire qui est active, qui est accessible au commun des enseignants? Ou...
C'est disponible dans 100 quelques pays différents.
OK.
Oui, vraiment, tu peux te créer un compte dès maintenant, si tu veux. Là. Même pas besoin d'être...
Je vais méditer à ça, c'est intéressant. Je trouve ça vraiment le fun, surtout pour des jeunes, comme tu dis, essayer de garder leur attention, trouver des moyens innovateurs de les garder en classe. Mm-hmm. C'est génial, surtout, là, je veux... Pour les personnes, surtout, qui ont de... J'ai pas le mot, là, mais ils aiment les jeux vidéo. Il y en a beaucoup en ce moment, des jeunes qui aiment, qui trippent. Il y a le e-sport qui commence à voir le jour. Fait que, tu sais, je veux dire, avec ça, je pense que c'est une excellente façon de... ramener les jeunes à comme « Yo, l'école, ça peut être cool. »
Puis en sachant que le modèle d'éducation qu'on a en ce moment est le même depuis longtemps, puis que c'était pour créer finalement ce prolétariat-là de, tu sais, écoute, applique, puis reproduis. Je trouve ça le fun que là, on a une discipline que les gens aiment. Tu sais, mettons, jouer aux jeux vidéo, ben là, t'as un défi, t'as un enjeu, t'as une quête pour en plus de faire tes devoirs là-dessus. Je trouve que c'est une belle, c'est un bel outil.
C'est quand qui a inventé ça, mettons? Ça fait-tu longtemps?
Moi, j'ai fait mon stage là-bas, calculez pas mon âge, 2016.
OK, fait que c'est pas récent.
40!
Okay.
Je comprends pourquoi tu pensais Marjolaine, t'es une bambine.
C'est ça, exact.
Hey, oh.
Mais presque sa fadoc.
J'ai mis
mais super intéressant. Mais là maintenant, tu nous as préparé une petite capsule. Conseil de pro, comment partir son podcast 101.
Attends. Et c'est lui, mon jingle préféré. On l'écoute.
Conseil de pro.
Conseil de pro.
Te dire comment je suis content qu'on ait celui-là puis pas l'autre quand on va enregistrer en toi qui finit en disant
ouais, non, j'aime vraiment pas ça.
Hey, c'est bon, là.
Conseil de pro pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient ça se partir un podcast. Comment ils font? On part de où? On t'écoute.
C'est quoi les bails?
Parfait. J'ai combien de temps?
4
minutes.
Ouais.
OK, c'est moi que je me demandais. OK. Ben, premièrement, tu sais, moi, je trouve que le plus important quand tu fais un podcast, tu sais, faut que ça ait de l'air concret. Il faut que tu deviennes un peu excité. Tu sais, moi, c'est avec le nom puis le logo. Tu sais, je trouve que c'est vraiment important de. Tu sais, il faut quand même mettre du temps là-dedans. Tu sais, ça a de l'air un peu plate. Mais, mais c'est vraiment le fun quand ça devient concret parce que aussi, c'est ça qui attire les gens vers ton podcast. Si t'as un mauvais logo, tu sais, les gens, ils vont pas cliquer sur ton lien pour écouter de quoi qui dure 30 minutes, 1 heure, et ainsi de suite.
Ouais.
Ça, c'est vraiment important. Deuxième chose, faut que tu te magasines ton stock, ton équipement. C'est capable de louer une salle comme vous avez ici, c'est incroyable. Mais sinon, deux micros, une console audio, puis tout, ça se fait très bien. Le logiciel audio, c'est très simple. Tu prends Audacity ou GarageBand, peu importe. Là.
Audacity, ça fonctionne très bien. C'est ce que j'ai utilisé cet été.
Puis tu parles de la salle, là. Acéphac, ici, il y a un studio pour podcast qui, je pense, est gratuit pour la communauté.
Mais c'est sûr qu'on n'était pas trop sûr parce qu'on en discutait hier, genre. J'ai l'impression que c'est gratuit, mais si c'est pas gratuit, c'est sûr que c'est à faible coût.
La personnalité, pas la personnalité, mais la communauté étudiante verse une cote par...
Bon, t'as bien raison. Fait que ça doit être gratuit.
Je pense que c'est gratuit, puis ils ont l'équipement, eux, fait que t'as pas besoin d'acheter. Ils
micro,
ont des aides qui peuvent t'aider.
Oui, il y a même des gens qui peuvent t'aider à faire ton montage. Puis en plus, maintenant, ils ont comme vraiment upgrade leur studio podcast. Il y a la captation vidéo qui est possible, donc c'est vraiment le fun. Donc cette étape-là, check.
C'est une capsule que j'apprends dedans. C'est vraiment le fun. Intéressant. Mais la partie la plus... la question qu'on m'a le plus posée, je dirais, c'est comment est-ce que tu diffuses ça, tu sais, parce que c'est vraiment compliqué. Ça peut être compliqué, mais ça peut aussi être très simple. Tu peux soit faire affaire avec des plateformes que je recommande à tout le monde, c'est en plus simple, parce que si tu vas de toi-même, il va falloir que tu te fasses chier, entre guillemets, à aller publier sur Apple Podcasts, Google Podcasts, et ainsi de suite. Moi, j'ai une plateforme qui s'appelle Transistor. Il y en a plein d'autres qui existent comme ça. Ça me coûte comme 20$ par mois. Puis ça me permet de diffuser mon podcast sur toutes les plateformes en un seul clic. C'est magique. Puis aussi, au niveau des frais, tu sais, avec ce frais-là, je peux Dans le fond, c'est au nombre de downloads que ça me coûte. Fait que moi, ma limite de download, c'est comme 300 000 par mois. Là.
Ah oui, ok.
Je pense pas.
Tu peux downloader 300 000 trucs.
Non, mais je veux dire, les gens qui m'écoutent.
Ah, ok, ok. Tu peux avoir jusqu'à 300 000 auditeurs par mois.
Par mois. Mais
c'est. Pense pas en masse. Je pense que c'est une bonne marge.
Tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça, un podcast, c'est pas comme YouTube. T'sais, les gens font pas juste cliquer là-dessus puis t'accumules des millions de views.
Ouais.
Des podcasts, tu sais, mettons, moi, j'avais comme 50 downloads par épisode, genre. Tu sais, ça paraît pas beaucoup.
Ben, c'est pas négligeable.
On part quelque part.
C'est ça. Exact.
Donc, t'es pas Joe Rogan non plus, là, à un moment donné. Il faut qu'on parte à quelque part, exactement.
On est pas des Madoff, nous autres, là.
Devenir.
Mais autre chose informative pour la capsule. À ces facs, ils mettent gratos sur Spotify et sur les grandes plateformes les émissions qu'ils font avec... en collaboration avec eux. Donc, nous, on est sur Spotify, là, donc gratos. Alors, je te le dis, si jamais c'est temps de venir avoir un équipement gratos, avoir une salle gratos, puis avoir finalement de la visibilité gratos, viens, c'est pas 88.3.
On jase. Mais justement, c'est peut-être temps de recommencer ça, là, parce que c'est vraiment trippant. Puis, c'est ça, parce que j'allais dire aussi, c'est que là, maintenant que je sais ça, c'est plus intéressant la prochaine partie, mais je disais que si vous voulez pas débourser, il y a une plateforme qui s'appelle Anchor, qu'eux, ils font ça gratuitement, c'est juste qu'ils ont eu de mettre des pubs dans ton podcast, là, un peu moins grave, mais si tu veux commencer ça tranquillement, puis c'est très accessible.
Parfait, hein? Merci.
Merci, Austin.
Ah, je pensais que ça allait dire de quoi, mais tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce que là, il y a un quiz qui s'en vient après la pause.
Le quiz Zinzin Waco sur les quoi, Marjolaine?
Sur les records personnels les plus étranges du livre des records Guinness.
Yes. J'ai tellement hâte de le voir.
Donc, on s'en va en pause. Au retour, on va écouter Chili de Clay Scott. Et restez avec nous, vous écoutez CFAQ débarque sur les ondes du 88.3. Sherby le midi, pardon.
Love this view from Air Japan. I turn AC into a fan. Like, if you preach the art of love, how you make the art of war, stay out of the beehive, yeah. In a black Mercedes, talk come cheap, so cut the maybes. Said there's only one of me now. Don't you play the fool? Tenderly. Oh, oh, yeah. On va get away. On va rouler, sans jamais toucher les bêtes. On n'est jamais en retard, mais on est toujours un peu late, amis. On peut qu'ils nous payent un temps qu'on arrive. Pour tous les jours, parler.
Collaboration entre G. Scott et Mike Lay de Clay and Friends. Y a-t-il une chanson plus merveilleuse en ce temps un peu grisant?
Oui, c'est
là,
doux,
qui
c'est
attend.
Réconfortant. En plus, ça s'appelle Chili, hein, fait qu'il y a un parfait repas d'automne.
Ah oui, un peu avec comme con carne avec un peu de maïs. Là.
On dit c'est une carne parce que non, on ne mange pas de viande.
Oui, moi, je mange de la viande parce que je suis normal. Donc, bonjour tout le monde.
Est-ce que t'es allergique au végétarisme?
Non, c'est que je tousse, ça me donne des allergies. Marjolaine, il est présentement 12h50, donc toujours accompagné de ta belle présence, Austin Didier et du Rossignol Ballonné qui est moi-même. Marjolaine, il reste peu de temps, mais il reste toujours assez de temps pour le quiz de la semaine.
Jingle! Bienvenue au quiz Zinzin de Sherby le midi. Préparé aujourd'hui, oui. Laurent et Austin, un petit quiz, comme mentionné avant la pause, sur des records du monde, ma foi, assez étranges, pour faire un petit rappel au record personnel que Austin a réalisé hier à la course à pied.
5 km en
20 minutes 50.
Clap, clap!
C'était vraiment décalé à travailler. Alors, première question, je suis désolée. D'ailleurs, je l'ai dit comme ça, il faut qu'on se le rappelle de demander d'ajouter le buzzer vert, le buzzer rouge pour les oui et les
on
non.
On a plein de nouveaux jingles.
C'est illala. OK, alors, première question. En fait, c'est record numéro 1, je suis désolée. Durant combien de jours, monsieur, là, je ne veux pas déformer son nom de famille, Zaradka, a-t-il survécu sans boire ni manger, enterré sous terre?
Laura.
Oui.
En sachant qu'on peut pas survivre plus de 3 jours en buvant de l'eau, j'imagine qu'il a mangé de l'eau dans son manger, on va dire 11 jours.
Non, mais il a pas mangé, il a pas bu. Il était enterré vivant sous terre.
Ah, 4 jours.
Ça, c'est un record, là. Ça doit être comme 6 jours, là.
Alors, j'ai 4 jours, 6 jours, est-ce que... J'entends, 6 jours, 4 jours, est-ce que c'est réponse ultime?
Oui,
ultime.
Alors, mauvaise réponse pour tous les deux. La réponse attendue était le 10 jours. Donc, avec
On avait la réponse.
Ensemble, vous aviez la réponse.
J'ai dit 11 en premier.
C'est ça, le 11, c'était pas trop loin. Mais oui, 10 jours sans manger ni boire. Mais là, par contre, j'ai vu sur la photo, tu sais, il y avait comme... Il était pas laissé à lui-même. Là. Il y avait genre un petit tuyau qui sortait genre de la terre pour qu'il puisse respirer de l'air fraîche. Il avait l'air d'avoir comme des intraveineuses dans les bras. Fait que je sais pas trop c'est quoi qu'il y avait là-dedans. Mais 10 jours sans manger, sans boire.
Mais c'est qui se lève le matin en disant, moi, je vais... Moi, il va battre un record.
Je vais mettre enterré vivant.
Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? C'est quoi ton record? Moi, il veut pas manger, il veut pas boire, enterré pendant 10 jours.
Et pourquoi 10, hein, Laura? Ouais. Il est à 9,5.
Comment? Je sais pas. Là, vraiment, j'ai pas fouillé davantage sur savoir c'est quoi la nature derrière, mais je trouvais ça impressionnant quand même.
C'est impressionnant, mais ça décrit un appel chez la thérapie. Là. Voyons,
probablement. Voyons. Oui. OK, record numéro 2. Combien de piercings la femme la plus percée au monde a-t-elle?
Ça donne dans les 4 chiffres.
Ah, ouais.
Je dirais 1200.
OK.
On va dire 3000.
3000. Alors, si on devait jouer à The Price is Right, Austin, semi-bonne réponse. Alors, Helen Davidson aurait au total 1900 piercings.
On est quand même fort.
Elle, je respecte son choix, mais je veux jamais y parler.
Mais vous auriez dû voir sa face. Pour vrai, c'était terrible. Sa langue, ses lèvres, c'était comme des piercings après piercings, des petites boules, c'était épouvantable.
Est-ce qu'elle mesure comme 6 pieds 8? Est-ce qu'il y a beaucoup de surface de peau?
Elle avait pas l'air
d'être
une si grande personne que ça, fait que je sais pas.
Moi, je m'en vais en vacances avec celle-là, là. Je vais passer avant aux douanes quand il y a le métal scanner, parce qu'on va passer 4 heures, là, tu comprends? Là.
Oui.
La phrase, on arrive 5 heures à l'avance pour elle.
Oui,
c'est vraiment
oui,
juste pour
100%.
Elle. Là.
OK, ah, voyons, record numéro 3, j'allais trouver ma foi très intéressant. Les cheveux de Troy Polamalu, lui qui représente Head and Shoulders.
Oui.
Donc, vous savez qui je parlais, le grand gars là, qui est souvent habillé en football avec ses longs cheveux frisés.
Je vais faire comme si je savais.
Ses cheveux sont assurés pour combien d'argent?
Ah, combien de dollars? C'est la compagnie pour le cheveu, je vais dire 3 millions.
3 millions, OK.
C'est sûr, c'est des millions.
C'est sûr.
10 millions.
C'était vraiment juste 1. Mais quand même,
ah, ben, c'est quand même
je veux dire,
million.
Crime, ses cheveux sont assurés pour 1 million de dollars. C'est ridicule.
En même temps, sans cheveux, tu n'es pas le partenaire de cette compagnie-là. Là.
Mais ce n'est pas lui qui assure ses cheveux. C'est Head & Shoulders qui assure ses cheveux.
Oui,
genre.
Je sais, mais c'est l'image de la marque aussi. Là.
Mais c'est fou.
Il y avait une affaire, là, mais il me semble qu'il y avait quelqu'un comme un chanteur, une chanteuse, je ne sais pas trop, mais comme c'est ta voix qui était assurée. C'est tellement immatériel, mais en même temps, c'est son métier. Genre.
Ah.
C'est spécial.
Céline?
Non, elle n'est pas assurée pour la voix. Parce que...
Whoop. Maintenant, on y va dans quelque chose de peut-être un peu plus...
deg?
Moi, je dirais deg.
Okay.
Alors, la longueur totale la plus longue des ongles des deux mains d'une personne est de combien, et attention, mètres?
Attends, chaque ongle...
Oui, admettons que tu prends tes 10...
La somme.
Tes 10 ongles, tu les mets ensemble. La longueur la plus longue de la personne qui détient le record.
60 mètres.
C'est intéressant. Parce que les ongles doivent curver beaucoup. Là.
Ah non, ouais,
ça peut
accumuler
beaucoup de mètres. Là.
Mettons 2 mètres. Mettons 1,50 m par main. Fait que ça fait, mettons, 2... Je vais dire 6 mètres.
OK. Ouais,
je dirais 17.
17. Laurent, alors 9,85 mètres de long.
Elle non plus, je ne vais pas aller en vacances avec elle.
C'est, ouais, moi, personnellement, ça m'écœure. Quand je vois quelqu'un qui a les ongles longs, puis là, tu vois que c'est sale en dessous, je suis comme...
Mais peut-être qu'il y a des entretiens.
Comment est-ce qu'avoir genre un mètre de long d'ongle sur chacun de tes doigts, tu peux entretenir ça? Genre, ça traîne à terre quand tu marches. C'est pas propre, là. C'est épouvantable.
Mais elle peut rien faire, tourner le poignet de porte, s'essuyer. Hey, elle va genre se scalper, là. Genre, une écharpe d'ongle dans le pet, c'est non.
Alors maintenant, record numéro 5. Julia, une dame... Attends, je sais pas c'est quoi son famille. Nius, c'est ça que ça me dit. Est la femme la plus tatouée au monde. Son corps est recouvert à quel pourcentage de tatou?
Ça doit être absurde. Ça doit être comme 97.
Je vais dire genre 95.
95? 90% de son corps est recouvert de tatous. Oui, effectivement, juste comme... C'est, de ce que j'ai vu, il y avait genre les yeux, il n'y avait pas de tatou dedans parce qu'on sait que ça existe, des tatous ouais. oculaires. Ouais. Donc, ouais, 90% de son corps. Et maintenant, le dernier record que je vous ai sorti. Quel est le record du monde pour le poids le plus lourd porté avec une langue?
Une langue?
Avec ta langue, là. Peut-être un petit un piercing de langue, puis là, tu changes ton piercing pour un petit hook, puis là, tu mets du poids.
Hey, ce monde-là, on n'a pas vu Destination Ultime quand la langue s'arrache ou genre ça. C'est dégueulasse.
Non, mais justement, tu veux entraîner ta langue pour pas que ça t'arrive. Ah,
mais c'est épouvantable pareil, là.
Je vais dire...
Quand c'est vraiment lourd,
la gang. 100 kilogrammes, le poids?
Ouais, c'est en kilos, là.
30?
En kilos? Ouais, une plate, là. C'est quoi, c'est 20 kilos? Ouais,
j'ai mal au cœur.
Ben, 20 écoutez, kilos, ouais. Là, on parle, puis je pense que j'ai peut-être fait une erreur de compréhension quand je regardais. Parce que moi, quand que j'ai je sais pas si ce que je vais vous dire est vrai. J'ai pas vérifié ma source. Mais j'aime me faire croire que c'est intéressant. Parce que là, c'était écrit... Moi, ma compréhension, vas-y. C'était 11 025 kg, mais c'est peut-être 11,025
kg. Oui, oui, 11 000
kg,
c'est pas
genre,
possible. As-tu déjà soulevé 11 000 kg dans ta vie?
C'est genre une tonne, 1000 kg.
C'est vrai,
là.
C'est beaucoup. Ça devait être 11,025 kg. Fait que c'est environ 25 livres que tu tiens avec ta langue.
Ah, c'est genre ça un reste
impressionnant. Oui, oui, très impressionnant. Encore là, tous les trucs que je vous ai dit aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai pas vérifié à même le livre des records Guinness. Donc, prenez pas ça pour du cash, mais reste quand même que c'est des choses impressionnantes qui sont arrivées un jour ou l'autre. Dans ce monde.
Mais moi, je me dis, est-ce que genre, il lève le poids, par exemple, à comme 3 cm du sol où il est là, à genre 6 mètres d'hauteur, il y a une différence.
Il fait 12 reps? Ou...
De la photo que j'ai vue, là,
c'est quoi ces reps? C'est quoi ces series, là?
Mais de la photo que j'ai vue, vraiment, la personne est comme un peu par en avant pour pas que le poids touche son corps, mais vraiment, il est comme. Il est debout, là. Il fait pas juste comme si. Là, c'est Santa Radio, on voit pas.
Une chance qu'on jeûne pour aller manger au sushi, puis j'aurais vomi mon déjeuner. Écoutez, merci beaucoup, Marjolaine, pour ton quiz Zinzin Waco qui m'a un peu levé le cœur. Austin, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui en studio. C'est très, très apprécié. Marjolaine, merci toujours d'être là. On se voit jeudi, évidemment, avec d'autres invités.
On se voit jeudi, d'autres invités. On vous garde la surprise. Donc, bon après-midi, tout le monde.
C'est qu'il y a du métier.
Et on se retrouve jeudi pour cette deuxième émission de la semaine de Chubby le midi.
Spécial relâche.
Bye, tout le monde.